Toujours le plaisir de vous accompagner, amis auditeurs, à travers votre émission Sawa. On parle aujourd'hui de la journée nationale du refus de l'échec scolaire. Et pour en parler avec vous, bien sûr, à travers votre émission Sawa, Monsieur Charles-Emmanuel Ballanger, le directeur général de l'association Aide et Action. Bonjour, Monsieur Ballanger.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, auriez-vous la possibilité de nous parler de votre association, déjà de nous la présenter? Évidemment, vous avez mené plusieurs actions à travers la France et à l'étranger en faveur de l'éducation. D'ailleurs, c'est votre slogan, lutter contre le décrochage scolaire. Nous présenter en quelques mots votre association.
Oui, bien sûr. Effectivement, notre slogan, c'est « L'éducation change le monde ».
Absolument.
Parce que nous sommes persuadés que l'éducation est le plus puissant levier pour permettre aux populations les plus vulnérables et les plus marginalisées d'avoir accès à un meilleur revenu, à une meilleure vie, à une meilleure compréhension du monde, donc aussi à une meilleure insertion dans la société. Notre association, dans ce cadre, œuvre depuis 1980, donc bientôt depuis 40 ans, dans 19 pays du monde, pour favoriser, pour accompagner l'accès à une éducation de qualité dans les pays en développement, et notamment pour les populations les plus vulnérables, les plus marginalisées, et notamment les filles, puisque en particulier les filles supportent, je dirais, plusieurs handicaps. Elles appartiennent à des familles paupérisées ou elles appartiennent à des minorités ethniques. Mais en plus de tout ça, elles sont des filles et pour ces différentes raisons, elles sont souvent exclues de l'éducation ou elles n'ont pas la réussite qu'elles devraient avoir dans le système éducatif. Donc aujourd'hui, nous intervenons dans 19 pays. Nous touchons près de 2 millions d'individus, adultes et enfants confondus, avec à peu près une répartition à peu près équitable, 1 million d'enfants et 1 million d'adultes. Dans les adultes, il faut compter bien sûr les adultes que nous accompagnons sur le plan de l'éducation et de l'insertion professionnelle, mais aussi les adultes que nous accompagnons de type enseignant ou structure de l'État qui accompagne la qualité de l'éducation.
En tout cas, la lutte contre le décrochage scolaire, vous avez quand même un savoir-faire depuis plusieurs années, depuis 40 ans déjà. Concernant le décrochage en France, quelle réflexion portez-vous sur ce décrochage, sur ces jeunes qui quittent l'école pour une raison ou pour une autre ?
Alors en France, nous intervenons depuis moins longtemps. Nous avons des actions en France depuis une dizaine d'années maintenant. Le décrochage scolaire en France, il est lié à un certain nombre de points que nous connaissons bien, qui sont en fait le décalage entre le système scolaire tel qu'il a été conçu et qui n'a jamais vraiment été re-questionné et revu depuis l'existence de l'école, et puis la société telle qu'elle est aujourd'hui. La société française, elle est diverse, à la fois dans sa culture, dans la population qui la compose, dans les niveaux sociaux, notre école ne prend pas en charge ces questions de diversité, ces questions d'inclusion de la diversité, et donc on a un nivellement par la moyenne qui ne satisfait personne. Et donc, les jeunes qui sont issus des milieux les plus défavorisés, sont effectivement ceux qui décrochent le plus vite parce qu'ils perdent confiance en eux, ils perdent confiance dans le système. Ils sont dans un système parfois qu'ils ne comprennent pas et pour lesquels les parents ne peuvent pas les accompagner. Il faut savoir, par exemple, que dans les milieux populaires, les enfants des milieux populaires ont 4 fois plus de risques de difficultés scolaires que les enfants du milieu d'une classe sociale médiane. Par exemple, et on a 3 fois plus de difficultés scolaires pour les enfants qui n'ont pas été scolarisés en maternelle. Donc tous ces éléments-là font que les enfants qui ont été gardés dans la famille tôt parce que la famille est issue de l'immigration, parce qu'elle a du mal à trouver sa place dans un système scolaire où les parents ont encore assez peu de place, ces enfants-là ont beaucoup plus de chances de ne pas se retrouver dans le système et finalement de décrocher par je dirais, lassitude ou tout simplement par déception.
Mmh. Vous avez parlé du décalage du système éducatif, la société française aussi. Est-ce que vous pensez que la société française est actuellement favorable à un changement quelconque proposé par l'éducation nationale? On a essayé plusieurs fois de changer certaines choses, mais la société, généralement, n'était pas prête tout à fait à accepter ces réformes.
Oui, je crois que vous avez raison. Je ne sais pas si la société française, je ne pourrais pas vous répondre pour vous dire si la société française est prête ou pas. Je pense qu'après, c'est une question de courage politique. Lorsqu'on fait des constats aussi alarmants que ceux que nous faisons sur la question du décrochage scolaire, sur le fait que les élèves français, dans la moyenne de l'OCDE, sont les élèves qui ont le plus faible niveau scolaire de l'OCDE, et qu'on voit la situation qui s'aggrave, il doit y avoir une volonté politique de réformer un système, ou tout au moins d'accompagner à la transformation d'un système. Et aujourd'hui, on n'a pas de cette volonté politique. Je vais prendre quelques exemples. Nous avons fait le constat, nous, dans notre association, sur les pays dans lesquels nous intervenons, que l'apprentissage, d'abord la scolarisation très tôt en maternelle, est un élément de réussite au primaire. Premier point. Donc, imposer cela, c'est une première chose. Il y a eu un effort de fait dans ce sens avec les récentes volontés gouvernementales, mais parallèlement, on sait aussi que l'apprentissage tôt, très tôt, dans sa langue maternelle et l'apprentissage progressif dans la langue nationale ou dans la langue officielle est un gage de réussite scolaire. Donc aujourd'hui, alors que nous avons une mixité de la population qui est très importante, je pense qu'il faudrait se poser sur ces questions autour de comment, dans les classes maternelles, on peut permettre à des enfants qui parlent le malien chez eux, ou le wolof, ou le tamazight, comment on les aide à continuer à entendre à l'école la langue qu'ils entendent chez eux, tout en introduisant la langue française. Et ça, c'est tout à fait réalisable. Il suffit d'être un peu inventif, il suffit d'avoir un peu de volonté, il suffit d'ouvrir l'école et de ne pas penser que l'école, elle n'est réservée qu'aux enseignants. On a des tas d'étudiants étrangers en France qui viennent des pays en développement, dans toutes les universités françaises. On a des Sénégalais, on a des Maliens, on a des Algériens ou des Tunisiens. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut inventer en s'appuyant sur ce qui a pu marcher et ce qui marche aujourd'hui dans un certain nombre de pays en développement qui s'intéressent aux questions d'éducation.
Donc, d'après vous, repenser l'école, réinventer l'école en quelque sorte?
Oui, il faut réinventer l'école. En France, je crois que nous sommes un des rares pays qui continue à enseigner comme à l'époque de Jules Ferry. Alors avec quelques modifications qui sont liées à des innovations techniques ou technologiques, et puis à la révision aussi des curricula. Mais globalement, aujourd'hui, regardons un élément tout simple. En quoi aujourd'hui l'école française favorise la coopération entre les élèves? Alors que de plus en plus dans notre société, les jeunes qui sortent du système scolaire vont être amenés à changer, à s'adapter, à coopérer, à trouver des solutions en commun. Aujourd'hui, on est encore avec un élève qui fait son travail tout seul et où, à quelques exceptions près, dans les travaux dirigés, on va favoriser un petit travail de groupe, etc. Cette question-là, elle n'est pas prise en compte. Alors que dans d'autres pays, je pense à la Finlande
où, qui ont réussi. Hein.
Exactement. Donc, c'est vraiment une question de repenser avec l'ensemble des acteurs du système éducatif la réussite des actions là où elles travaillent, y compris dans des endroits, dans des pays extrêmement difficiles en termes de réussite et d'accès à l'éducation. Elle est liée au fait que EDAction travaille avec l'ensemble des partenaires de l'éducation, les pouvoirs publics, les communautés locales, parfois les autorités religieuses, les familles, mais les enfants eux-mêmes. Les enfants sont un acteur du système et on les met en situation comme s'ils n'existaient pas. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Aujourd'hui, on peut plus, dans la société du 21e siècle, on peut plus tenir compte du fait que les enfants, ils sont là où on leur demande d'être et on remplit un vase.
En tout cas, Monsieur Charles-Emmanuel Ballonger, je rappelle que vous êtes directeur général d'Aide et Action. Dans notre société française, il est clair qu'on a une forme de fébrilité quant aux réformes quelconques, généralement, et surtout quand il s'agit de l'éducation nationale. Et cela, ça peut être aussi un problème pour toute réforme à l'avenir, si tentée, qu'on essaye de repenser l'école de l'avenir. D'après l'éducation nationale, la lutte contre le décrochage scolaire, pour elle, c'est une priorité nationale et un enjeu dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Donc, elle articule prévention et remédiation autour d'un objectif central, faire que chaque jeune puisse construire son avenir professionnel et réussir sa vie en société. Ceci dit, actuellement, à l'ère des technologies modernes, vous avez dit un mot très important, l'adaptation, vous parlez d'adaptation. Il y a des zones qui sont défavorisées, des zones qui ont la possibilité d'avoir accès aux technologies modernes et donc avoir des études facilement ou suivre leurs études facilement, d'autres zones qui sont défavorisées et donc les jeunes décrochent plus rapidement, comme vous l'avez cité. Comment on peut s'en sortir, quoi? Comment on pense, quelles sont les portes de sortie pour ces jeunes qui veulent réussir? Il y a des jeunes à l'université qui décrochent à cause de la précarité, à cause de tant de problèmes. Comment faire?
Je pense que c'est une question essentielle et je pense que souvent on n'y répond pas ou on répond à côté parce qu'on confond deux choses. On confond les outils. Là, nous venons de parler des outils technologiques, des ordinateurs, Internet, etc. On confond l'outil et le process d'apprentissage et les techniques d'apprentissage. Mmh. Alors aujourd'hui, l'outil rend des tas de services. On a bien vu qu'au travers de la crise de la Covid, il y a un tas de questions qui se sont posées au travers de l'utilisation d'Internet et l'accès à l'utilisation de l'Internet et à l'ordinateur. Mais l'apprentissage à distance, c'est pas que l'utilisation de l'ordinateur. Mmh. Il y a des tas de choses qui peuvent être inventées, encore une fois, il faut être inventif, il faut construire ensemble. Le deuxième élément, c'est donc le process d'apprentissage. En fait, plutôt que de se poser la question de l'outil, et j'entends que l'éducation nationale en fait un enjeu majeur de la lutte contre l'échec scolaire, mais si c'est pour faire toujours plus de la même chose, c'est-à-dire si pour un enfant qui ne réussit pas à l'école, on lui donne des cours du soir avec un enseignant, ça ne marchera pas plus. Mmh. Parce que l'enseignant, il va avoir la même posture et l'enfant va être dans une situation qui va être la même. C'est-à-dire, je suis en face d'un sachant qui m'explique des choses avec son vocabulaire à lui parce qu'il est d'une classe sociale X et que moi, ce vocabulaire-là, j'ai du mal à le comprendre, etc. Donc, il faut changer les pédagogies. Il faut partir s'appuyer sur des pédagogies actives qui ont fait leurs preuves. Il faut s'appuyer sur des pédagogies qui sont centrées sur le vécu des jeunes, des choses qui leur parlent dans leur vécu de tous les jours et pas des choses qui sont... complètement en dehors comme un sanctuaire à l'école où la vie réelle, on en parle assez peu. Et c'est en centrant ces pédagogies sur l'intérêt des enfants, sur ce qu'ils vivent au quotidien, des étudiants, qu'on peut avancer sur la question de l'éducation et de la lutte contre l'échec scolaire. Mmh. Il faut, si vous me permettez...
Bien sûr.
Il faut prendre lorsqu'on parle de l'enfant, on parle des droits de l'enfant et on dit souvent un point qui est essentiel dans les droits de l'enfant, c'est qu'il faut prendre l'enfant dans sa globalité. Eh bien, quand on s'adresse à la question de l'éducation et de la lutte contre l'échec, par exemple, il faut prendre cette question dans sa globalité. Prendre cette question dans sa globalité, ça veut dire qu'il y a un ensemble d'acteurs qui sont des acteurs de l'éducation ou qui ont une action sur l'éducation. La ville, les associations de la ville, les enseignants, les parents, qui sont trop souvent, même un parent qui est analphabète, il peut contribuer à l'éducation de son enfant, et si on lui donne la place, il peut contribuer à des réflexions et à des apports dans la classe.
Absolument.
Sur les jeunes enfants, des expériences ont été faites où des parents qui vont venir en maternelle, parce qu'ils sont d'origine africaine, raconter des contes africains, etc., ça va redonner confiance aux enfants, à leurs propres enfants, parce que les autres enfants, les autres familles vont projeter un regard différent. Voilà. Donc toutes ces questions de l'acceptation de la diversité, de l'inclusion des familles dans l'école, de pédagogie nouvelle, voilà, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et je pense que pour la réforme, les réformes, il faut qu'elles, si elles sont imposées du haut, finalement elles ne viennent jamais parce qu'il y a une opposition, comme vous dites. Mais aujourd'hui, malgré tout ce que je viens de dire, il y a des tas d'initiatives dans l'éducation nationale.
C'est clair.
Extrêmement pertinentes, et qu'on doit pouvoir démultiplier, qu'on doit pouvoir mettre un peu d'argent, mais tout simplement aussi un petit peu de moyens d'accompagnement pour que ces réussites se déploient sur le territoire français et que finalement la réforme elle vienne par la base et pas par le gouvernement. Que le gouvernement finalement mette en musique ce qui s'est mettre en musique et un peu en réglementation, ce qui a été initié par le terrain.
En tout cas, on aura certainement besoin de vous prochainement pour parler de plein de thématiques. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois.
Mais écoutez, avec grand plaisir, voilà, l'éducation change le monde, changeons-le ensemble.
Absolument, on va le changer. Merci beaucoup et on va le repenser. Merci, à très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir. Au revoir.